Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Yann de Canberra nous avait demandé via Facebook une émission sur les premières colonies installées sur le continent australien. Franck Ferrand lui donne satisfaction cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Omeline, bonjour à tous. Permettez-moi de saluer Yann et puis tous nos auditeurs du bout du monde. Et vive les podcasts qui permettent ce prodige quotidien. Il n'y a quasiment pas de jour sans qu'on m'annonce une situation différente pour écouter les podcasts d'Au cœur de l'histoire. Certains c'est en repassant, d'autres en faisant du sport ou en faisant du jogging ou que sais-je encore. Alors, nous allons en Australie aujourd'hui, un pays neuf, dit-on, pas tout à fait aussi neuf que cela, nous allons nous en rendre compte, en compagnie d'un spécialiste, conservateur général au musée du Quai Branly, Philippe Pelletier.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Thierry sur la différence existante entre cathédrale et basilique.
Alors, je crois me souvenir qu'on avait déjà répondu à cette question. C'est normal, me direz-vous, que certaines interrogations finissent par revenir. Pour le moment, un sujet dont nous n'avons jamais, absolument jamais parlé dans cette émission, l'Australie et ses premiers colons occidentaux.
Europe 1. 14h, 15h, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Mai 1787 à Portsmouth. Portsmouth, vous savez, c'est ce port très animé du sud de l'Angleterre et les habitants ce jour-là voient s'éloigner 11 bâtiments de la marine britannique. Des bâtiments qui ne vont pas tarder à disparaître au loin derrière la ligne d'horizon. Ils sont partis loin, ils sont partis très loin. À bord de cette petite escadre qu'on va surnommer la première flotte, First Fleet, 563 officiers militaires et simples marins, mais aussi 732 condamnés. On appelle ça des convicts en Angleterre, des repris de justice. Alors, ce ne sont pas des condamnés très sévères. Hein. Ce sont des petits voleurs, des criminels, des marginaux. Bref, des gens qu'on a forcés à prendre la route de l'exil. Ils seront le point de départ. Ils seront le tout premier noyau d'une nouvelle colonie qu'on veut donc installer si loin de leur Angleterre natale. Pour eux, ce départ a toutes les apparences d'un voyage sans retour. La première flotte vogue maintenant vers cette terre très mal connue à l'époque. On l'a découverte il y a peu de temps, nous y reviendrons tout à l'heure. On est totalement à l'écart de toutes les routes commerciales et pour cause, cette terre c'est l'Australie. Alors, 8 mois plus tard, 20 000 kilomètres plus loin, nos 11 navires sont à destination. Ils ont déjà réussi à tous survivre, si je puis dire, à cette immense traversée. C'est en soi un grand soulagement. Il faut savoir que 6 à 8% des voyageurs sont morts en chemin. Nous, ça nous paraît énorme, mais à l'époque, c'est regardé comme relativement faible, puisque il faut quand même tenir compte de l'extrême durée de ce voyage, hein, dans des conditions plus que rudimentaires. Alors, peu après la mi-janvier 1788, les Britanniques pénètrent dans une grande anse qui est située au sud-est du continent australien. Elle a été repérée 18 ans plus tôt, cette anse, par le célèbre James Cook. Comment évoquer l'Australie et comment évoquer ses débuts héroïques de la colonisation australienne sans citer ce nom-là, hein, bien sûr, James Cook, qui avait fait à cette époque son premier voyage en 1770 dans le Pacifique. Le lieu, il a été baptisé Botany Bay. Il est censé être favorable à la fondation d'une colonie. En vérité, celui qui fait office de commandant de cette première flotte ne tarde pas à déchanter. Il faut que je vous le présente, ce capitaine. Il a 50 ans, il ne manque pas d'expérience. Il s'appelle Arthur Philip. Voilà ce que nous raconte Isabelle Merle. La baie s'avère difficile d'accès, trop ouverte et dangereuse lorsque soufflent les vents de sud-est. Les ressources en eau sont insuffisantes, le sol trop sableux peut convenir aux cultures et le sol est trop sableux pour convenir aux cultures et la population aborigène bien plus nombreuse que ne l'avait supposé James Cook. Ça va être la grande surprise, hein, évidemment. Le capitaine Philippe est un homme pragmatique, vous savez, c'est un vrai Britannique, il a les pieds sur terre, ou en tout cas sur le pont de son navire. Il décide que puisque cette baie n'est pas la plus favorable possible, eh bien on va se mettre à en chercher une autre. Et le nouveau lieu sera Port Jackson. Ça c'est une anse qui est située nettement plus au nord. Dès ce moment, ont lieu des rencontres entre les Anglais et les Aborigènes. On s'observe, on tente des approches, on échange quelques objets. Vous savez, on a fait ça un peu partout dans le monde, évidemment. L'heure est à la prudence, bien entendu. Les Anglais peinent à comprendre les réactions des indigènes, comme on dit. Ils craignent de faire un faux pas qui provoquerait un conflit. Quant aux Aborigènes, ils sont pour le moins surpris par l'apparence de leurs visiteurs. Ils sont très impressionnés par les armes à feu, évidemment. Et vite, ils sont heurtés par le comportement envahissant de ces gens qui n'ont aucun respect, visiblement, pour l'environnement. Il faut dire que les Britanniques ne perdent pas de temps. À partir du 28 janvier, ils prennent position sur le lieu choisi pour créer leur colonie. Ils s'activent. Alors quand je dis s'active, on abat des arbres, bien entendu, hein, ça c'est la première chose. On commence à aménager le terrain, on crée un campement. C'est les convicts hein, qui travaillent sans ces condamnés, qui sont à pied d'œuvre pour un travail harassant. Et des difficultés apparaissent tout de suite. Des hommes pensent à fuir. Certains remettent en cause l'autorité des officiers. Et alors que les femmes descendent des bateaux, évidemment, des scènes d'orgie ont lieu. Pour le capitaine Philippe, tout ça est inacceptable. Il est grand temps d'imposer des cadres pour réguler cette société qui est en gestation, qui est naissante. À leurs yeux, il y va de la survie de la colonie qui doit garantir au plus vite, au milieu de ce territoire inconnu, les conditions de son autosuffisance, notamment de son autosuffisance alimentaire. Voilà ce que souligne Michel Bernard. Le capitaine Philippe, nommé commandant en chef et gouverneur général de la Nouvelle-Galles du Sud, était un homme d'envergure, plein de bon sens, de discipline et de maîtrise de soi, dépourvu d'intérêt pour le pouvoir, quoique sachant l'utiliser. Il se voulait le garant de la loi, de la religion, de l'ordre et de la propriété individuelle. Et il va mettre en place, ce capitaine Philippe, des structures religieuses, judiciaires dans cette petite colonie qu'on va bientôt appeler Sydney. Les choses vont vite puisqu'un mois après leur arrivée, les Anglais possèdent suffisamment d'éléments sociaux pour procéder à une première exécution. Autre priorité du gouverneur Philippe, créer des liens avec les aborigènes. L'enjeu, c'est de se faire accepter, connaître. L'idée, bien entendu, c'est d'explorer ce territoire. Hein, et les aborigènes sont les meilleurs guides pour ce faire. On pourra, comme cela, augmenter les chances de survie de la colonie. Mais la méfiance des aborigènes semble se confirmer et l'on se demande bien comment on va pouvoir dépasser les barrières qui déjà se créent.
Sur Europe 1 du générique de la série télévisée britannique Banished, diffusée dès le mois de mars 2015 sur BBC Two. Au cœur de l'Australie, des premiers colons, vous nous racontez Franck Ferrand, cette relation naissante entre le capitaine Philippe et les aborigènes.
Et oui, c'est encore Isabelle Merle qui nous parle. Le gouverneur Philippe désespère de jamais entrer en relation. Il décide alors de recourir à la force en enlevant un ou plusieurs individus pour fabriquer des intermédiaires obligés, c'est ainsi que parlent les Britanniques, intermédiaires qui pourront renseigner les Anglais sur les mœurs, les coutumes de leur peuple, et feront connaître en échange à leurs compatriotes la bienveillance des nouveaux venus. C'est en tout cas ce qu'on veut, c'est l'image qu'on veut donner. Un premier aborigène est donc capturé à la fin de cette année 1788. Il va mourir assez peu de temps après de la variole. Il faut dire que cette maladie a été importée d'Europe et qu'elle fait très tôt des ravages parmi les aborigènes. On verra jusqu'où, hein, puisque on pense que près des 9 dixièmes de la population a finalement été décimée. Fin 1789, le capitaine Philippe décide de procéder à un nouvel enlèvement et très vite, deux aborigènes d'une vingtaine d'années sont pris, ils n'ont pas tellement résisté. L'un d'eux est nommé Colby, il va parvenir assez vite à s'enfuir. Mais l'autre est coincé, si je puis dire. Il va bien être obligé de créer une relation avec les Anglais, son nom Bennelong, immédiatement. L'apparence, le tempérament de ce Bennelong vont interpeller les Britanniques qui cherchent à comprendre les ressorts de sa personnalité. Un témoin de l'époque, qui s'appelle Watkin Tench, nous le décrit ainsi. Il semblait avoir dans les 26 ans. Il était de bonne taille, trapu, et montrait un comportement intrépide et brave qui trahissait la méfiance et le désir de vengeance. Ben, oui, ça se comprend. Les Anglais remarquent néanmoins très vite l'intelligence assez sidérante de Bennelong, qui comprend tout, s'adapte immédiatement à l'environnement que lui imposent les Européens, et très vite, cet aborigène va maîtriser les bases de la langue anglaise. Il observe et parfois il imite les habitudes des Européens, et par exemple, il va développer un goût certain pour l'alcool. Évidemment, les aborigènes, a priori, rejettent l'alcool. Bientôt, Bennelong parle de son clan, il évoque son existence, il explique notamment l'origine des cicatrices qu'il a sur le corps. Il s'attarde sur ses exploits guerriers et au fil des mois, on va voir naître une relation qui paraît quand même assez étroite entre Bennelong et le capitaine Philippe. En gage d'amitié et de respect pour le gouverneur, nous dit toujours Watkin Tench, il l'appelait parfois Bina, ce qui signifie père, tout en s'attribuant pour sa part l'appellation de gouverneur. Nous comprîmes alors que cet échange de noms était une marque d'amitié chez les indigènes. C'est une tradition donc de cette population. Toutefois, le 3 mai 1790, en pleine nuit, Bennelong va tromper un de ses gardes et il prend néanmoins la fuite. Il va réussir à s'enfuir. Il est resté moins de 6 mois, somme toute, avant de retrouver sa liberté. On peut imaginer que le capitaine Philippe est non seulement attristé, mais qu'il est bien embarrassé par cette disparition de Bennelong, qui était en train de devenir l'intermédiaire plein de promesses dont avait besoin la nouvelle colonie britannique. C'est en tout cas une mauvaise nouvelle, ça c'est incontestable. À cette époque, la colonie est totalement isolée de l'Angleterre, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles évidemment. La nourriture commence à faire sérieusement défaut et finalement il va falloir attendre quelques mois supplémentaires pour que le gouverneur ait des nouvelles de Bennelong. On est en septembre 1790. Plusieurs des hommes du capitaine ont vu Bennelong parmi un grand groupe d'aborigènes en train de dépecer une baleine échouée sur une plage qui n'est pas très éloignée. Ils ont même réussi à parler et l'ancien prisonnier a demandé des nouvelles du gouverneur. À ce moment-là, Philippe décide de se rendre sur place. Il débarque donc sur la plage. Il avance complètement désarmé en montrant bien qu'il est désarmé. Il est accompagné d'un seul marin, il avance vers Bennelong. La rencontre est assez froide, le comportement de l'aborigène a quelque chose d'étrange, mais finalement, une discussion s'engage qui s'anime très vite. Ils sont très vite rejoints par quelques hommes, tandis que des aborigènes les entourent. L'atmosphère a l'air de se réchauffer. Philippe va même offrir un verre de vin à Bennelong, mais soudain, un autre habitant des lieux, un autre aborigène, s'approche, on ne le connaît pas celui-ci, et dans une scène pleine de confusion, il jette une lance qui vient se planter droit dans l'épaule du capitaine Philippe, qui est complètement sidéré par ce qui se passe, qui est bien sûr blessé et gêné par la longueur de la lance, qu'il ne peut bien sûr pas retirer. Néanmoins, il n'est pas du tout blessé à mort, il réussit à s'extraire, et il retrouve son canot, Philippe, il s'enfuit. Sa plaie est assez profonde, mais elle est en vérité sans gravité. Les Anglais se demandent ce qui a bien pu se passer, puisque tout avait l'air d'aller plutôt bien. Philippe pense que l'agresseur a craint d'être enlevé. Il dit que Bennelong n'est pas en cause. Et pourtant, nous dit Isabelle Merle, les faits décortiqués par plusieurs travaux historiques proposeront l'interprétation d'un rituel de vengeance orchestré par Bennelong en accord avec Colby pour faire payer aux Britanniques l'affront que constitua l'enlèvement des deux hommes, comme si en quelque sorte on rétablissait une forme d'équilibre entre les deux plateaux de la balance. Alors malgré ça, le capitaine Philippe n'a pas l'intention de renoncer à approcher ces aborigènes qui sont la seule chance pour cette colonie de survivre durablement. Il n'a pas l'intention de rompre même avec Bennelong. D'ailleurs, les Anglais vont le recroiser et chose étonnante, Bénélong va demander des nouvelles du gouverneur. Il demande où en est sa blessure, s'il a pu se soigner, etc. Et ça va être le départ de nouvelles rencontres. Les relations privilégiées que Bénélong entretient désormais avec les Britanniques semblent lui donner une forme d'autorité au sein de son clan, comme s'il était devenu en quelque sorte une sorte de super ambassadeur des aborigènes dans cette nouvelle puissance conquérante. Il a l'air assez sûr de lui, il a l'air sûr de sa position, et un jour qu'il se rend dans la colonie, il fait même visiter à d'autres aborigènes le logement du gouverneur. Il leur montre les différentes pièces, il leur présente des personnes connues pendant sa captivité, il leur montre toutes sortes d'objets qui pour eux sont évidemment très étonnants, il essaie même de leur expliquer le fonctionnement. Au fil du temps, son rôle d'intermédiaire va devenir plus important. Une petite bâtisse est construite pour son usage au sein de la colonie. Il a donc son logement chez les Anglais d'une certaine manière. Pour autant, il reste insaisissable. Il faut bien en être conscient. Bénélong n'est pas là, disponible à la demande. Il ne se montre pas volontiers fiable. Il refuse parfois certaines rencontres. Son comportement est très déconcertant pour les colons. Et surtout, les Anglais sont choqués par la brutalité dont peut faire preuve parfois ce Bénélong contre certains membres de son propre peuple. Quant aux autres aborigènes, ils vont subir parfois des représailles violentes lorsque un Européen est tué, parce que ça arrive quand même. Vous voyez, tout ça sont des relations qui restent très âpres, évidemment. Ce genre de drame va créer des tensions qui deviennent presque insurmontables. Pour autant, le capitaine Philippe ne rompt pas ce lien avec son intermédiaire privilégié, avec ce fameux Bénélong. Au contraire, à tel point même qu'en 1791, le gouverneur va pouvoir envisager d'emmener l'aborigène avec lui jusqu'en Grande-Bretagne.
Franck Ferrand sur Europe 1.
L'Australie colonisée par les Anglais est au cœur de l'histoire et vous évoquez à présent Franck Ferrand. Le retour en Angleterre du capitaine Philippe.
Et oui, à la fin de l'année 1792, il faut vous dire que depuis presque 2 ans maintenant, on a établi, alors c'est très très rudimentaire, mais on a établi une navette. Hein. Il y a des navires qui font l'aller-retour avec la colonie mère, avec la puissance mère. Donc le capitaine Philippe obtient du roi d'Angleterre l'autorisation de rentrer au pays. On est là donc fin 1792. Il a déjà fait un premier travail. Hein. Les premières années très difficiles ont permis de stabiliser cette première colonie de Nouvelle-Galles du Sud, comme on l'appelle. La population à l'époque compte déjà plusieurs milliers d'habitants et on continue d'amener des convicts, hein, toujours ces espèces de condamnés qui arrivent et qui vont constituer le substrat même de la population occidentale australienne. Le 10 décembre 1792, Philippe monte donc à bord de son navire, l'Atlantique, et il prend la direction de l'Europe et donc il est accompagné par le fameux Bénélong et par un autre aborigène. Pour ces deux hommes, évidemment, c'est une nouvelle étape dans les relations parce qu'ils s'entendaient bien à terre. Qu'en sera-t-il en mer? On peut évidemment se poser la question. Les aborigènes ont l'air a priori comme ça plutôt heureux de partir malgré les larmes de leurs femmes et de leurs proches qui ont peiné à accepter un tel voyage. Un voyage qui va durer 6 mois, s'il vous plaît, avant que l'Atlantique atteigne enfin les côtes anglaises. Un journal s'en fait l'écho. Le capitaine Philippe a emmené avec lui un homme et un garçon et les a emmenés en ville, nous dit le journal local. L'Atlantique a aussi à son bord 4 kangourous vifs et en bonne santé, ainsi que d'autres animaux. Il apparaît dans les descriptions qui sont données des natifs, donc de la baie de Port Jackson, qu'ils sont d'une race totalement incapable de civilisation. Ils sont cruels, particulièrement envers leurs femmes, qu'ils frappent de la manière la plus barbare en toute occasion. Dormez tranquille, braves gens. Cet article est un des rares qui seront réellement consacrés à la visite des aborigènes en Angleterre. En fait, aussi étonnant que ça paraisse, et ça n'a là vraiment rien à voir avec ce qui s'était passé avec les populations du Nouveau Monde, qui au XVIe siècle, vous savez, arrivent dans les cours d'Europe, là on a l'impression que ça ne passionne pas les foules du tout. Contrairement à ce que Philippe pouvait attendre, eh bien tout le monde reste indifférent devant ces aborigènes qu'il ramène de si loin. Il est même très probable que Bénélong et son compagnon n'aient pas été présentés au roi George III, ce qui paraît complètement fou. Hein. Ce serait donc, si c'est le cas, parce que très difficile de le prouver, mais si c'est le cas, c'est la première fois que ça a lieu. curieux, hein. C'est assez étonnant que la Cour ne s'intéresse pas davantage à ces populations d'origine. Tout ça n'empêche pas nos aborigènes de découvrir un certain nombre d'aspects de la vie londonienne. Ils assistent à des pièces de théâtre. Vous imaginez le peu de chance qu'ils avaient en naissant d'aller sur cette autre planète. Là, je crois que le mot n'est pas trop fort. Ça doit être assez inouï. Ils vont assister à un procès. Ils visitent la cathédrale Saint-Paul, la tour de Londres. Bah oui, quand vous allez à Londres, on fait visiter la tour. Ça fait partie de bon. Le tout dans une relative indifférence de la presse et de l'opinion. Encore une fois, si l'on en croit Kate Foulagar, ils n'ont jamais été remarqués par des passants. Personne n'a même relevé le côté piquant d'une visite par des aborigènes du Parkinson Museum, célèbre pour abriter des objets réunis lors des voyages de Cook dans le Pacifique. Ce voyage est marqué par une tragédie, il faut le dire. Pendant l'hiver 1794, le compagnon de Bénélong tombe malade. Avec le climat londonien, ça n'a rien de très étonnant. Alors on lui fait subir les remèdes de l'époque. Vous savez, toutes sortes de mixtures, de lavements pour essayer de le sauver. En vain, et au grand désespoir de Bénélong, son ami finit donc par mourir et le laisse alors cette fois totalement seul dans ce pays inconnu. Il semble à ce moment-là que Bénélong ait manifesté le désir ardent de rentrer chez lui au plus vite, mais il va devoir attendre le début de l'année 1795 pour enfin reprendre la mer et retrouver l'été suivant la baie de Port Jackson. Faut imaginer la difficulté de ce retour pour cet homme qui a été brinque-ballé littéralement. D'ailleurs, pour lui, la situation a beaucoup changé. Sa femme vit désormais avec un autre. Le capitaine Philippe n'est plus là, bien entendu. Il n'a plus cette position. Mais il est de retour chez lui. Alors, il va faire un choix. Il refuse de se fondre dans la culture européenne, de cette colonie locale. Il va retourner auprès des siens. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les Britanniques le perdent de vue, puisque dans les années suivantes, on voit de temps en temps Bénélong. On ne peut pas dire qu'il soit facile à suivre. Les événements de sa vie font débat entre les historiens, mais enfin, il fait toujours partie du paysage pour la colonie, si je puis dire. Certains le présentent comme un être plus ou moins en marge, objet de mépris, qui errerait ivre, sans vêtements, près des habitations de la colonie anglaise. D'autres insistent au contraire sur son image de chef de clan, toujours respecté, qui croire? Bénélong va mourir au début du mois de janvier 1813. Il sera âgé lui-même à ce moment-là d'une cinquantaine d'années. Arthur Philippe meurt environ un an après, mais alors lui, très loin de l'Australie, hein, en Angleterre, à Bath, après avoir participé à la défense navale contre les Français. On est à l'époque, évidemment, des guerres contre Napoléon. Les deux hommes ne se sont jamais revus après le fameux voyage de Bénélong à Londres. Et leur relation très complexe, cette relation qui était à la fois amicale en apparence, matinée de respect, mais en même temps non dénuée d'arrière-pensée, cette relation reste comme une expérience ambiguë dans l'histoire de l'implantation des Anglais en Australie. Bonjour Philippe Pelletier.
Bonjour.
Nous allons revenir avec vous sur cette époque, nous allons revenir sur les aborigènes, bref, sur toutes les origines de l'Australie dite moderne.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand sur Europe 1.
L'Australie et les aborigènes sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le conservateur général et responsable de l'unité patrimoniale Océanie-Insulinde au musée du Quai Branly, Philippe Pelletier.
Alors Philippe Pelletier, nous avons fait une toute première connaissance avec cette civilisation très étonnante pour les Occidentaux de l'époque, pour les Européens de l'époque. Ces aborigènes, Cook les avait déjà observés d'ailleurs. Il avait fait une longue relation de ses impressions.
Oui, dans le récit de son premier voyage, il fait effectivement, il dit comment sont les gens. Ce qui est assez étonnant parce qu'en fait, il les a vus de loin.
Eh oui.
Mais il a l'air d'avoir très bien observé la façon dont ils se comportaient, et il va effectivement les décrire. Ce qui les choque beaucoup, c'est qu'ils vont nus. Ils n'arrivent pas vraiment à établir un contact avec eux. Ils ont des problèmes d'abord de ravitaillement du bateau, hein, avant de rentrer en contact avec les gens. Enfin, c'est leur mission, hein. Ils sont là pour planter un drapeau anglais sur le sol australien et prendre possession de la colonie.
Ce qui est assez étonnant, c'est que, évidemment, pour les Anglais de l'époque, ces aborigènes n'ont quasiment aucun point commun avec notre civilisation. Même leur mode de raisonnement, même les échanges qu'on peut établir avec eux n'obéissent pas du tout aux mêmes règles. Donc il faut beaucoup de temps pour les comprendre, et réciproquement bien entendu.
Oui, mais ça c'est vrai de toutes les sociétés. En fait.
Oui, mais c'était moins vrai, par exemple, je pense avec les Amérindiens. On a vu à quel point les relations se font assez vite entre les conquistadors et un certain nombre de populations d'Amérique du Nord ou d'Amérique centrale. Alors après, ça va être, on connaît avec quelle violence tout ça va être réglé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une sorte de contact, il y avait des liens qui paraissent beaucoup plus difficiles avec les aborigènes, dont la logique échappe en quelque sorte aux Anglais.
Oui, mais c'est vrai de tout son voyage dans le Pacifique,
oui,
en fait.
Oui, bien sûr.
Quand il arrive à Tahiti, les gens viennent vers lui, prennent les bateaux, viennent vers lui. Quand il arrive à Hawaï, c'est la même chose. Quand il arrive au Vanuatu, là, il y a des îles où il est en face d'un marmé, il n'arrive pas à descendre et à mérir, il voit que c'est dangereux, etc. Bon, ceci dit, à Hawaï, ça se terminera aussi mal pour lui. Puisqu'il sera tué.
Oui. Ah, ouais.
Ça dépend vraiment des gens. Mais je pense que les aborigènes sont très méfiants, en fait, de voir ces gens arriver. Il faut voir que c'est un choc pour eux. C'est des bateaux qu'ils connaissent pas. C'est des structures qu'ils connaissent pas, qui arrivent par la mer, qui sont quand même des structures gigantesques pour eux. C'est des gens qui ont la peau blanche, ils ont jamais vu. C'est des gens qui ont un drôle de corps, puisqu'ils ont des vêtements. Ils peuvent se demander pourquoi les corps sont comme ça, parce qu'ils peuvent très bien imaginer que le corps est né comme ça et qu'ils vont nus aussi, mais dans l'état où ils sont. Donc tout ça c'est très étrange, et ils sont très méfiants. On saura jamais vraiment pourquoi. Évidemment, on peut faire des tas d'hypothèses, mais on saura jamais pourquoi ils ont eu cette méfiance.
Ce qui est étonnant, c'est que les différents navigateurs qui, depuis le XVIIe siècle, ont approché des côtes australiennes n'avaient pas du tout tenté d'implantation. On ne se servait des côtes que pour se ravitailler rapidement, pour se servir même, on s'en servait comme d'un point de repère géographique, mais il n'y a pas de volonté de coloniser ce continent austral, ce continent océanien, avant donc ce que je racontais tout à l'heure, donc avant 1788, c'est-à-dire très très tard.
Oui, absolument. Les premiers qui descendent, en fait, c'est Tasman, ils descendent du sud-est asiatique, en fait, ils descendent de la zone indonésienne, ce qu'on appelle insulaire en France, et ils descendent sur la côte ouest. Or la côte ouest c'est une côte hostile, parce que c'est là où arrive le grand désert central. Il y a assez peu de régions fertiles. D'ailleurs, il y a assez peu de régions fertiles en Australie. En fait, il y a 6% des terres arables en Australie seulement. Le reste, c'est
très désertique.
C'est très désertique.
Gigantesque en plus, bien sûr.
Enfin, à nos yeux, en tout cas.
Oui, bien sûr.
Et donc, ils cherchent des lieux où ils peuvent installer des plantations. Ils en trouvent pas, donc ils repartent. On pense qu'il y a entre l'arrivée de Cook et le moment où Tasman arrive et l'arrivée de Cook, il y a à peu près 58 bateaux qui passent. Mais ils ne restent que sur la côte ouest. Ils vont pas plus loin, ils vont jusqu'en Tasmanie et puis après ils reviennent. On peut penser qu'aussi c'est de la difficulté de la navigation à ce moment-là, parce que c'est les 40e mugissantes.
Eh oui.
Hein. C'est pas facile à naviguer. Hein,
c'est sûr, évidemment. Hein,
donc ils remontent pas trop. Quoi.
Tout est hostile en vérité. Tout est hostile. On comprend encore mieux le cynisme de l'administration pénitentiaire britannique qui décide d'aller créer là-bas une colonie pénitentiaire. On se dit que ce sont des gens qu'on ne reverra jamais, en quelque sorte.
Et c'est vrai, ils les ont jamais
revus. D'ailleurs, ils les ont jamais revus. C'est une forme quasiment de condamnation à mort, en tout cas dans l'esprit de ceux qui envoient les colons.
Oui. Mais aussi, c'est les gens qui doivent faire de la conquête d'un territoire, qui doivent être à l'avant. On les installe comme agriculteurs. Et
en même temps, on ne les dote pas des moyens administratifs qui permettraient assez vite de créer une colonie, comme l'ont fait si souvent les Anglais, je pense en Inde, par exemple. Là, ils arrivent, ils n'ont quasiment pas d'administrateurs, ils n'ont pas d'ingénieurs, ils n'ont pas d'urbanistes, pas d'agronomes, rien.
Non, ils ont vraiment rien. Et ils vont se retrouver dans un milieu très hostile, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Botany Bay, il n'y a pas d'eau. D'ailleurs, ça a été un des problèmes de Cook, c'est d'aller trouver de l'eau. Il fait creuser un trou dans le sable sur la plage pour récupérer de l'eau potable. Ça, il connaît le truc, puisque le sable filtre le sel. Mais il va pas dans la baie de Sydney. Et puis il repart, en fait. Et quand ils arrivent à Botany Bay, effectivement, ils sont face au même problème. C'est une terre aride presque. C'est un très bel endroit, Botany Bay. Hein. C'est là où il y a l'aéroport de Sydney maintenant. Mais c'est moins beau que la baie de Sydney, qui est absolument magnifique, et c'est là où ils s'installent. Mais même là, en fait, ils vont avoir un problème parce que ils vont être obligés de remonter à 21 km à l'intérieur des terres pour pouvoir installer les premières plantations et les premières fermes.
Et l'implantation humaine va se faire très lentement sur cette Australie. Et il va falloir attendre plus d'un demi-siècle avant qu'on voit vraiment quand même la colonie s'étendre. Alors, d'abord par le littoral, il faut le dire.
Oui, ça c'est une des caractéristiques aussi de l'Australie. On voit mal ça en France. C'est un continent qui n'a pas de grands fleuves. Mm-hmm. Donc on ne rentre pas. On est obligé sur les côtes. Et ils comprennent. Évidemment, ils ont l'exemple des Hollandais sur la côte ouest. Ils comprennent que la terre est aride, que c'est du grand désert, etc., etc. Et le seul lieu où il y a vraiment des terres arables où on peut s'installer, c'est tout ce qui est maintenant le Queensland, le New South Wales, c'est la région de Sydney, plus jusque à Melbourne, Adélaïde, en descendant. Et ça, c'est bordé d'une grande chaîne de montagnes, disent les Australiens. Bon. Nous, on est un peu souriants quand on voit la hauteur de ces montagnes-là, mais sur lesquelles il y a des plateaux sur lesquels ils vont pouvoir installer de l'élevage.
Alors, on ne va sûrement pas faire aujourd'hui l'histoire de l'Australie, et je voudrais en plus qu'on vienne assez vite aux aborigènes. Mais d'un mot, c'est l'or. C'est l'attrait de l'or qui va susciter l'attrait pour ce nouveau pays, en vérité. Ça, c'est en 1850, non ?
À peu près, oui. Oui. C'est à côté de Melbourne, justement, qu'à un moment donné, on découvre de l'or qui va faire un appel de population absolument considérable. Et c'est là où on commence le boom de la population en Australie. En 1850, ils sont à peu près 1,3 million.
Eh oui, quand même.
Oui. Et ils sont autour des villes. Adélaïde, Melbourne, Sydney, Brisbane, pas trop, mais ils sont là autour des villes. Et puis il y a cette découverte de l'or, et là il y a une migration énorme qui arrive, et en 1870 ils seront 3,6 millions.
Et tout ça va évidemment créer une forte confrontation avec la population de substrat, avec ces fameux aborigènes, et c'est ce que nous voyons avec vous dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Kangourou, kangourou, mon gentil petit kangourou, aux yeux verts, aux poils roux, on t'aimait ici beaucoup, on t'avait rapporté du pays des grands étés, d'Australie, dans un lit, un petit lit de paille bien joli. Tu grandis, le jardin devint trop petit. À la fin, rassasié.
Charles Trenet sur Europe 1 avec Kangourou, l'Australie et les aborigènes.
On ne pouvait pas vraiment échapper au kangourou. On parle de l'Australie, vous imaginez. Certains auraient été déçus s'il n'avait pas été question de kangourou.
Alors les kangourous, l'Australie et les aborigènes. Au cœur de l'histoire, avec vous Franck Ferrand, et vous recevez le conservateur général et responsable de l'unité patrimoniale océanie insulaire au musée du Quai Branly, Philippe Pelletier.
Et oui, je vois que ça suscite beaucoup de questions. Je vais les lire dans un instant. Avant cela, peut-être, expliquons qui sont ces aborigènes, Philippe Pelletier. Parce qu'on a bien sûr, on dit les aborigènes, comme si c'était une seule population très homogène. Mais ça n'est pas le cas en fait. Ce sont des foyers très différents de...
Oui, ils sont arrivés à peu près, on pense, il y a 40 ou 50 000 ans en Australie. Ils s'épandent sur la surface de l'Australie, d'abord sur les côtes. Et puis ensuite, petit à petit, à l'intérieur, on pense qu'il y avait à peu près 400 langues parlées en Australie au moment du contact. C'est difficile à dire. Il y a une carte célèbre en Australie où on voit ces langues qui est différentes. Bon, c'est un peu des reconstitutions. Elle a été très critiquée sur les choses. Et puis surtout, le grand point obscur, c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que sans qu'on sache vraiment qui amène la variole en Australie. Ça va être à l'origine d'une dissémination des populations absolument considérable.
Là, c'est vraiment
c'est une catastrophe.
9 dixièmes au total de la population, c'est considérable.
C'est considérable. Et surtout, c'est des populations qui sont justement sur cette frange côtière riche de l'Est qui vont d'abord disparaître. Ce qui fait que maintenant les grandes populations, les grands centres de population, et on connaît presque rien de ces populations en fait. on sait qu'ils ont existé, on a quelques histoires, quelques mythes, mais en gros, on ne sait pas très bien.
Il n'y a pas d'écriture ?
Non, il n'y a pas d'écriture, et puis il n'y a personne pour récupérer les savoirs systématiquement. C'est quelque chose qui va arriver seulement à la fin du 19e. Et donc, les populations australiennes les plus importantes sont maintenant au centre de l'Australie.
Donc, disons que les populations dites aborigènes sont totalement résiduelles, même à l'époque dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vraiment, il ne restait déjà plus qu'une partie de l'immense population initiale.
Absolument. Oui, ça a été... alors, on ne peut pas parler de génocide, si vous voulez. Ça a été,
non, il n'y a pas d'intention.
Il n'y a pas de mauvaise intention, mais ça a été la disparition, en fait, de ces gens sous la maladie.
Oui. On a une idée de la population dont vous dites
Alors là aussi, c'est des estimations. On compte entre 500 000 et 1 million au moment de l'arrivée des Cooks.
Mais... Donc, on se rend compte que dès la deuxième moitié du 19e siècle, quand on a 3, 4, 5 millions d'habitants européens, évidemment, par définition, ils deviennent très minoritaires.
Ils le sont encore. C'est 2% de la population de l'Australie actuellement.
On a essayé de les mélanger à la population. Ouais. Évidemment, il y a une politique même qui a été très volontariste dans ce sens au début du 20e siècle.
Au début du 20e siècle, jusqu'à peu après la Première Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. Oui.
On a essayé de... Et ce qui a été l'origine de drames terribles dans les familles, puisqu'on a arraché les enfants aux familles, qu'on les a mis dans des institutions et qu'on les a éduqués à l'européenne, en les mariant, souvent les filles, par exemple, en les mariant avec des petits blancs locaux, de manière à blanchir la race. Et on voit très bien dans quelle idéologie on est quand on parle de ça.
Paul nous pose une question via Facebook. Il demande s'il y a eu des batailles répertoriées, de vraies batailles organisées entre aborigènes et colons. Est-ce qu'il y a eu comme ça des confrontations, des bras de fer, d'une certaine manière?
Alors, il y en a eu au début, il y en a eu encore après, il y en a eu assez fréquemment.
C'était des combattants, ils avaient une dimension belliqueuse.
Oui. Mais il faut voir que ce sont, bon, alors, ce qui caractérise aussi les aborigènes, c'est les chasseurs-cueilleurs.
Et oui.
Ce sont des gens qui se déplacent tout le temps. Alors, ce qui aura une conséquence absolument terrible pour eux, c'est que quand les colons vont arriver, pas Philips, mais après, on va dire que comme ils ne cultivent pas la terre, la terre ne leur appartient pas. Et on va considérer que l'Australie, c'est terra nullius. C'est un territoire vide. Et qu'on peut prendre la terre comme on veut. Alors ça, c'est à l'origine, évidemment, des conflits absolument énormes. Parce que pour un aborigène, au contraire, la terre, et c'est ce qu'ils vont essayer de montrer dans les années 70, avec leur peinture, avec leur rituel, etc., etc., la terre, ça appartient à... C'est l'ancestralité, c'est là d'où je sors, ça m'appartient, c'est là où sont mes ancêtres, etc., etc. Donc c'est très très important. Et ça va être à l'origine de conflits absolument terribles. Et qu'il faut quand même relativiser et réaliser, parce que quand on parle de chasseurs-cueilleurs, quoi, c'est 20 personnes qui se déplacent.
Oui, voilà.
Alors il y a plusieurs groupes de 20 personnes qui se déplacent. Ça peut faire des communautés plus importantes à certains moments. Mais quoi, on est en face de 100 personnes.
Oui. Oui, tout ça reste très... Ce sont des personnes qui se font rares, d'une certaine manière.
Hein. Absolument. Oui. Ceci dit, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits très, très, très importants.
Est-ce que les populations qui se sont installées et qui ont créé l'Australie, que nous connaissons, l'Australie moderne, ont essayé de s'intéresser à ces populations? Est-ce qu'il y a eu la volonté de préserver une culture? Est-ce qu'il y a eu la volonté de comprendre l'art aborigène? Puisqu'il y a un art aborigène qu'on découvre tardivement, vous me direz.
On le découvre à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en fait. Oui, il y a des gens. Il y a deux anthropologues qui sont très très connus, qui s'appellent Spencer et Gillens, qui vont publier à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et qui vont être aussi des défenseurs des communautés aborigènes. Là où les communautés aborigènes ont résisté, particulièrement dans la terre d'Arnhem, c'est-à-dire complètement au nord de l'Australie, là, ils vont être des défenseurs des cultures aborigènes. Contre l'invasion, justement, des blancs et des grandes cultures, des grands élevages extensifs, hein, puisque c'est aussi ça qui est en cause.
Si on devait définir cet art aborigène, à quoi ressemble-t-il d'une certaine manière? C'est un art éphémère, essentiellement.
C'est un art qui est lié aux cérémonies.
Rituel, au départ.
Donc c'est beaucoup de peinture sur le sol, c'est beaucoup de peinture sur le corps, donc effectivement éphémère. Alors après, il y a des objets qui ont des gravures, mais il n'y a pas, contrairement à d'autres régions du Pacifique ou d'autres régions du monde, il n'y a pas de...
On comprend que ça avait fasciné les photographes à partir du 20e siècle, en
absolument.
Fait.
Absolument.
Hein. Parce qu'évidemment, la photographie permet d'immortaliser des œuvres qui sont vouées à périr.
Absolument. Mais on comprend aussi que les gens n'ont pas vu ça. Parce que comme c'était des cérémonies secrètes, comme c'est des cérémonies cachées, les aborigènes ne montraient pas aux gens. Et donc les gens ont dit, ils sont sans art. ne voyant pas tous ce qui pouvait être créé lors des rituels et qui était éphémère, qui durait le temps du rituel, 2 heures, 3 heures, et puis hop, ça disparaissait.
Ce qui est très étonnant, c'est que ça se soit prolongé jusqu'à nos jours. On aurait pu imaginer une acculturation progressive et même rapide dans cette marée humaine en train de construire un tout nouveau pays. C'est pas ce qui s'est passé, en fait. Non. On a maintenu certaines traditions aborigènes.
Absolument, oui, oui. Mais on l'a maintenu surtout sur les communautés du centre. Mmh. Qui sont des communautés isolées. Vous savez que la première traversée, alors je sais plus exactement les dates, mais la première traversée nord-sud de l'Australie, c'est les années 70.
Eh oui, c'est ça, c'est très
c'est quelques garçons qui s'en vont comme ça, et puis qu'après ils vont importer des chameaux avec des chameliers d'Afghanistan pour résister au désert. Mais en fait, la connaissance du centre, c'est très récent. Et jusqu'en 1980, le dernier aborigène qui sort du désert central, c'est 87. C'est hier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce garçon, on a une toile de lui au musée du Quai Branly, ce garçon va se mettre à peindre des peintures acryliques sur toile, c'est-à-dire en utilisant un moyen européen.
Mais on a eu cet exemple tout à fait fascinant de ce premier aborigène, Benny Long, qui se retrouve à Covent Garden en train d'assister à un spectacle. Évidemment, ça a été un choc invraisemblable. Ce choc-là, de façon plus mineure, nombreux sont ceux qui, au fil des siècles, l'ont vécu par la suite, puisqu'ils se sont confrontés progressivement à ces colonies et à cette population européenne qui était devenue la population australienne, en fait.
Oui, oui. Mais ça va être des mésaventures qui vont se répéter au fil du temps. Hein. Les mêmes schémas se répètent d'incompréhension entre les groupes.
Il y a quand même eu des progrès, alors on va dire après la Seconde Guerre mondiale essentiellement, c'est-à-dire qu'on a reconnu quand même les aborigènes. C'est 1967 la grande date.
Hein. C'est ça. Ils n'ont pas de, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était Terra Nullius, hein, ils n'ont pas d'identité en fait. Et ils vont commencer vraiment à la réclamer à partir des années 50. Ils vont constituer des groupes de pression. Et ils ont été tout à fait extraordinaires là aussi à l'utilisation des moyens modernes, par exemple la radio. Ils sont appuyés sur des systèmes de radio aborigènes, etc. etc. La télévision, ils ont construit des réseaux de télévision pour eux. Et puis en 67, on leur donne l'identité et ensuite ils vont aller sur le Parlement à Canberra. Ils vont occuper pendant plusieurs années devant le Parlement. Ils vont camper. Hein, c'est le campement existe toujours. D'ailleurs, ils continuent à réclamer des choses pour avoir à nouveau leurs droits sur leur terre.
Oui, et il faudra attendre 1992 pour que la Haute Cour d'Australie invalide, alors avec effet rétroactif, cet argument de la Terra Nullius, hein, disant que l'Australie était une terre entièrement vierge et à conquérir. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance du droit des aborigènes, si je puis dire, de leur droit de sol, était extrêmement récente. Hein, c'est il y a un peu plus de 20 ans.
Il y a un peu plus de 20 ans maintenant, oui. Et ils continuent à lutter contre les mines, contre les intérêts miniers, qui évidemment sont très, très importants en Australie.
Et est-ce qu'ils ont une spécialité? Est-ce qu'ils sont particulièrement doués, je ne sais pas moi, pour la cuisine, est-ce qu'il y a un domaine de spécialisation des aborigènes? Est-ce que la population européenne les a utilisés à une tâche bien définie en particulier?
Dans les années 30, ils ont été utilisés comme des cowboys.
Des cowboys, ah, oui.
Ils étaient loués avec le bétail parce que c'est des gens qui vivent effectivement qui comme des troupeaux migrés. Enfin, j'ai pas faire une assimilation entre les deux. Hein, me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais oui, c'est des gens qui savaient ce que c'était que la chasse, qui savaient ce que c'était que la pêche, qui savaient comment se comporter dans le désert. Donc là, tout ce qui touchait au désert, là, ils sont très évidemment très fort.
Est-ce qu'on connaît à peu près leur proportion dans la population australienne actuelle?
C'est 2% de la population.
Mais 2%, ouais, c'est donc une très faible minorité. Ouais. J'imagine qu'aujourd'hui, on les regarde avec d'autant plus d'intérêt. Ils sont beaucoup plus protégés, si je puis dire, qu'ils ne l'étaient autrefois dans leur culture, dans leur existence.
Oui, surtout qu'ils ont développé cet art aborigène de peinture qui a généré des bénéfices absolument considérables certaines années. On compte que ça fait rentrer plusieurs centaines de millions dans l'Australie. C'est quand même une grosse force économique.
Oui.
Le problème d'un aborigène du centre, c'est qu'il n'accumule pas.
Mm-hmm. Et que il n'a pas du tout cet esprit-là, bien sûr.
Non. que quand on a quelque chose, on le partage. Donc voilà, il y a pas d'accumulation, et ça, évidemment, pour une société capitaliste comme la nôtre,
ça ne rend pas puissant, ouais, évidemment.
Et puis on comprend pas.
Oui, non, on a du mal parfois. Où peut-on voir en France et à Paris notamment, où peut-on voir de l'art aborigène pour les auditeurs que ça intéresserait?
Bah, il y en a au musée du Quai Branly, on voilà. a une petite section, on a un bâtiment aussi, hein, qu'au moment de l'inauguration du musée, on avait au moment de la construction du musée, pardon, on avait construit un bâtiment avec des peintures aborigènes qui sont visibles de l'extérieur. Il y en a aussi dans le bâtiment, et puis il y a quelques galeries dans Paris où on peut voir de l'art aborigène.
Merci beaucoup Philippe Pelletier, vous nous avez donné envie d'aller au musée du Quai Branly, donc c'est assez facile là pour le coup, c'est beaucoup plus que de faire le voyage jusqu'à l'Australie. Nous reviendrons peut-être sur l'Australie un de ces jours pour parler alors de l'autre histoire australienne, si je puis dire, et notamment de son intégration au Commonwealth, de sa participation progressive à l'histoire mondiale, je pense notamment aux deux guerres mondiales, ça nous entraînerait sur d'autres terrains. Merci beaucoup.
Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Thierry sur la différence entre une cathédrale et une basilique.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Thierry via la page Facebook de l'émission. Thierry vous demande, Franck Ferrand, quelle différence y a-t-il entre une cathédrale et une basilique?
Alors les deux sont des églises, mais ce sont des distinctions d'églises de nature différente, si vous voulez. La cathédrale, c'est le siège du diocèse, hein, c'est là que réside l'évêque. Autrefois, le trône de l'évêque s'appelait une cathèdre, et donc c'était l'église cathédrale, l'église de l'évêque, hein, tout simplement. Alors il se trouve qu'une cathédrale peut aussi être une basilique, ça on y vient, parce que la basilique, c'est une église ou une cathédrale qui revêt une dignité particulière en raison de ce qui s'est passé, de ce qu'elle abrite. Il peut y avoir eu des mirages, ça peut être un lieu de pèlerinage, il peut y avoir la présence du corps d'un saint ou de reliques particulièrement importantes qui ont justifié qu'on lui donne ce titre de basilique qui vient du grec basileus, hein, c'est le siège du roi autrefois, basileus c'est le roi en grec. Donc les chrétiens pendant longtemps ont conçu leurs basiliques, les premières basiliques, sur un plan similaire à celui des basiliques de l'Antiquité romaine. Alors ce qu'on appelait des basiliques à Rome, c'était des grands bâtiments de structure rectangulaire qui étaient terminés par une partie voûtée qu'on appelait donc une abside. Vous voyez l'origine architecturale de la basilique. Ce grand édifice servait de lieu de prestige pour une famille, ça servait de tribunal, ça servait de centre d'affaires, etc. Les basiliques chrétiennes, évidemment, vous l'aurez compris, n'ont plus rien à voir. C'est une dignité qu'on accorde à une église ou à une cathédrale. Alors, il y a des basiliques dites majeures. Il y en a quatre, elles sont toutes à Rome. Saint-Pierre du Vatican, Saint-Paul hors les murs, Saint-Jean de Latran et Sainte-Marie-Majeure.